Donc cet après-midi, c'est la deuxième séance de notre séminaire « Les nouvelles technologies entre utopie et dystopie ». Je vous rappelle que donc ce séminaire est né d'échanges que nous avons eus ces deux dernières années, Ima Tubela et moi-même. On ne se connaissait pas avant, on s'est retrouvés dans le même bureau à la Maison des sciences de l'Homme. Et on a commencé à échanger nos savoirs, nos connaissances, nos préoccupations. Et finalement, on s'est dit que les manières différentes dont on avait, avec lesquelles on regardait...
Il est diplomatique. Hein.
Oui, c'est ça. On regardait les questions du numérique... elle, du point de vue d'une spécialiste de la société de l'information, et moi, du point de vue de la médecine, étaient très complémentaires, même si ils n'étaient pas toujours les mêmes, et que on avait envie de tirer une richesse de nos différences. Et c'est pour ça qu'on a donc demandé au Collège d'études mondiales de bien vouloir nous permettre de faire ce séminaire. L'idée de ce séminaire, c'est donc, c'est un séminaire, c'est pas un cours. Donc, bien sûr, nous, on a ces connaissances des nouvelles technologies et on a, comme on vous l'a dit la dernière fois, relu une dizaine de livres de ce qu'on appelle la littérature dystopique, donc 1984, Le meilleur des mondes, pour les plus connus. Et en utilisant cette littérature, on voit combien elle est extraordinairement d'actualité. Et donc, on souhaite mettre en miroir la réalité des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne et la littérature dystopique avec cette idée, ce questionnement qui est, est-ce que finalement les sociétés décrites dans la littérature dystopique ne sont pas celles que, de manière plus ou moins consciente, mais toujours volontaire, on est en train de créer nous-mêmes ? C'est-à-dire, quand on sort son iPhone, on est, oui ou non, en train de créer une société dans laquelle le numérique va gouverner notre manière d'être. Alors, au cours de la première séance, on est resté assez, une vision assez générale, parce qu'il fallait introduire... ce débat. Aujourd'hui, on va s'intéresser, le thème, c'est la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'on a préparé avec Ima Tubela un certain nombre d'exemples qui pour réfléchir à cette espèce de situation tout à fait inhabituelle dans laquelle toute cette nouvelle technologie nous offre des libertés supplémentaires et qu'en même temps, elles nous contraignent de plus en plus, et que cette espèce de contradiction qui est que à la fois on bénéficie de progrès qui nous rendent entre guillemets la vie plus facile, mais que à chaque fois qu'on prend cet outil, en particulier notre smartphone, dans les mains, on s'aliène un petit peu plus de notre liberté. C'est cette espèce de dualité, de situation en miroir que l'on voudrait explorer avec vous. Donc c'est un séminaire, c'est-à-dire que vous êtes des acteurs de ce séminaire. Il y a 22 personnes qui s'étaient inscrites pour aujourd'hui. On aimerait que ces quatre séances, qui sont une manière de débroussailler la question, débouchent sur un colloque dans lequel on aimerait que plusieurs d'entre vous soient des acteurs sur des sujets, sur des questions que vous aimeriez voir débattues. On ne sait pas encore, ils vont en discuter demain et après-demain, si on peut faire ça avant les vacances ou si on le fera à la rentrée. Mais la première idée, c'est de nous faire apparaître, de faire apparaître cette réflexion à un public plus large et aussi par rapport à nos collègues qui trouvent ça très amusant, ce qu'on a lancé comme débat, mais qui finalement... dans leur domaine, les finances, la philosophie ou l'économie sont confrontés aux mêmes questions. On aimerait aussi que ce soit un colloque qui mobilise une réflexion. Puis après, on verra l'année prochaine ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, vous vous sentez libre d'intervenir n'importe quand. C'est pas un cours, c'est pas une conférence. Tout ce que vous pouvez dire est enrichissant. On prend des notes, on filme nos séances. L'autre idée étant éventuellement d'en faire un dossier à la fois audiovisuel et écrit qui pourrait servir à des cours, qui pourrait servir à, sur Internet à des chercheurs, puisque dans le cadre, en tout cas, du Collège d'études mondiales dont nous faisons partie tous les deux, c'est la première initiative autour de cette thématique. Alors aujourd'hui, on a choisi avec Ima Tubella de vous, pendant la première moitié, ensuite la Maison des sciences de l'homme nous offre un goûter, et puis ensuite on recommence à travailler. Donc pendant la première moitié de cet après-midi, on vous propose trois exposés de nous deux, deux d'Ima Tubella et un de moi, pour nous regarder dans la quotidienneté à quoi pourrait ressembler une vie connectée, avec des outils qui existent déjà aujourd'hui. Donc, elle va le faire sous forme de la journée d'une femme connectée. Moi, je vais le faire sous forme de la médecine connectée. Et puis, avant ça, on a pensé qu'il était intéressant, ne serait-ce que parce que elle qui, donc c'est le métier, mais moi pas du tout, de nous faire un bref historique de ce système Internet dont on parle tous les jours, qu'on utilise tous les jours, mais dont on ne sait pas toujours très bien d'où ça vient, comment c'est né, et finalement, en 30 ou 40 ans, comment ça s'est développé pour faire ce que l'on connaît aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est comme Jean-Daniel a dit, TIC et liberté. Alors, quelles questions on se pose quand on parle d'éthique et liberté? L'éthique comme un...
Ah, l'éthique.
Non, les...
TIC. Technologie d'information et de la communication.
Bon, mon français, vous savez, hein, bon. Alors, on parle d'empowerment, je ne sais pas la traduction en français, d'empowerment, ou bien on parle de soumission. On parle de liberté, on parle de surveillance, on parle de contre-pouvoir, on parle de contrôle. Et comme on disait dans notre flyer qu'on annonçait cette séance concrète, on disait jusqu'où peut-on laisser la technologie nous envahir alors qu'au-delà de ses bienfaits, elle permet un contrôle ubiquitaire de notre vie au quotidien. Ça, c'est un peu les questions que nous avons posées avant de commencer à préparer tout ça. Alors, tout commence à la fin des années 50. Je ferai l'histoire très courte, hein, mais un peu pour donner l'idée de cette évolution d'Internet. Qu'est-ce que c'était Internet au début, ou qu'est-ce qu'il voulait que ce soit, et qu'est-ce qu'il est devenu? L'année 57, les Russes ont lancé Sputnik. Les Sputnik et les Américains ont resté très traumatisés parce qu'ils voulaient être les premières. Alors, ils ont commencé à organiser des choses. Le département de défense a créé ARPA, Advanced Research Project Agency, constitué des scientifiques et chargé de concevoir des innovations technologiques appliquées à l'armée. L'année 62, quelques années plus tard, c'est le US Air Force qui a demandé un groupe de RAND, de la RAND Corporation, c'est Research and Development, de concevoir un réseau capable de résister à une frappe nucléaire. C'était la grande peur de ce moment-là. La solution, c'était clair. C'était en tout cas un réseau décentralisé qui permet de continuer à fonctionner si un ordinateur est frappé. Alors, ça a été le thème, le débat au début, centralisé ou pas ou décentralisé. Et les militaires n'aimaient pas ce concept décentralisé, ils voulaient contrôler. mais il y a eu un essai avant d'Internet, de toute cette histoire aux États-Unis, il y a eu un essai à l'Union soviétique de la construction d'un réseau pour protéger l'information en cas aussi de frappe nucléaire de la part des Américains. Et ils ont construit un réseau fortement centralisé, c'était l'idéologie, non ? Ça a échoué, c'était impossible. Les contrôles totaux, c'était impossible si on voulait sauver de l'information. Alors, les militaires américains ont été convaincus que devait être décentralisé. Alors, ils cherchèrent, pas militaires, ils sont allés aux universités de la Californie et Utah. Ils sont allés là chercher de chercheurs, des professeurs pour travailler à ça. Et finalement, ils ont mis en place ces réseaux. Et ils ont commencé un test avec la UCLA. C'était UCLA, l'Université de Californie à Santa Barbara, Stanford et l'Université de Utah. Ils ont démontré que ça, c'était possible. Ils se sont échangés de l'information avec les financements d'ARPANET. Ils ont créé ARPANET, que c'était ce réseau que ARPA avait commencé à penser. De toute façon, tout de suite, les chercheurs impliqués de la main de Vinton Cerf. Je n'ai pas un tableau pour écrire les noms, mais Vinton Cerf, c'est connu. Ils ont fait tout le possible pour se libérer de l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire, se libérer de l'armée ? Publier ouvertement les résultats et lancer les réseaux au monde, déjà indépendantes de l'armée. Évidemment, l'armée l'utilisait. Mais ils ont fait cet effort de se libérer de l'armée. Depuis ses origines, se dessine déjà une dialectique opposant liberté-contrôle. On parle, ça c'est de l'époque là, on parle de libération de l'individu associé à l'ordinateur. Et là, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il dit « You can and must understand computers now ». Parce que pour eux, c'était très important que les gens comprennent à quoi servent ça. Et c'est Computer Leap, que c'est à l'époque de cet essor en Californie, des hippies, anarchistes, communautés alternatives et toute cette histoire-là. Ça a été pendant les années 60-70. Et ça a abouti au déploiement des utopies, des cyborgs, de la réalité virtuelle et de l'intelligence collective, que je préfère les concepts intelligence connective, aux années 80. Ensuite, l'accélération fulgurante de la diffusion d'Internet à partir des années 90, notamment avec la création du World Wide Web, avec l'intervention du CERN, jusqu'à la privatisation du réseau. Alors, on a passé de cette idée de la Computer Leap, toute cette histoire-là, à commencer à se demander si ce qu'on faisait, c'était peut-être construire un grand Big Brother. De toute façon, tout ça, ce n'est pas qu'il est né aux États-Unis. Je vous ai dit que l'Union soviétique déjà avait un projet. La France avait un projet. Avant Minitel, la France avait un projet, les Cyclades. Les Cyclades étaient inspirées en ARPANET, en tous ces concepts de décentralisation. Par contre, les Minitel étaient un concept centralisé qui copiait ou qui s'inspirait aux médias traditionnels. Contrôle éditorial, public passif, contrôle, quoi. Incapable de suivre le rythme des usages numériques. Et Minitel, la France a choisi Minitel, pas les Cyclades. Et comme vous savez bien, Minitel est morte. Et comme je vous ai dit aussi, c'était la Russie, c'était les États-Unis, c'était la France, c'était la Suisse qui étaient en train de penser à ces sortes d'architectures. Les réseaux... alors, on a passé de Computer Leap, Big Brother, et tout de suite après, projet maintenant, après on va en parler plus... avec Google, une personnalisation de Big Brother et Google, comme vous verrez après, is watching you all the time. Les réseaux étaient pensés alors au début comme une architecture ouverte, comme un système capable de se développer de façon autonome, ça c'était très important, c'est un modèle organique. Tout en favorisant la culture de l'échange et le partage. La liberté, la libre circulation de l'information et de la communication. Dans sa forme initiale, assurer une forme de liberté de circulation et d'égalité d'accès radicalement différent des médias traditionnels qui étaient un émetteur et beaucoup de récepteurs. Et je souligne aussi que ça a été créé avec, avec les apports de beaucoup de monde, de gens. C'était une architecture ouverte. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça pour un consensus dans l'architecture? Qu'est-ce que je veux dire comme consensus? Avec la discussion des valeurs basiques. Et ça, c'est très important pour comprendre un peu les origines d'Internet. Il y a eu des discussions sur l'autorégulation. Ça devait être un instrument autorégulé. Coopération, partage, communauté d'ego, collaboration et travail en équipe. C'était un monde à part au début des hackers, chercheurs, hippies et activistes, notamment de la côte ouest des États-Unis. Il y a un virage alors contre-culturel très clair vers une sociabilité de réseau. Et comment est-ce que cette sociabilité a été possible, surtout pour l'invention du mail? L'année 71. Vous savez qui contenait les. On se demande beaucoup de fois qu'est-ce qu'on a écrit dans les premiers emails. Je vous rappelle, vous savez qu'est-ce qu'il a écrit Morse dans son premier message? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, c'est le premier message de Morse. Et la première communication téléphonique de Bell a été « Mr. Watson, venez ici, je vous veux ». Qu'est-ce qu'il y a eu dans les premières... Ça, c'est un peu métaphorique, tout ça, si vous y pensez. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les premières mails? Qu'est-ce qu'il a écrit son inventaire qui s'appelle Ray Tomlinson? Alors, « QWERTYOP », c'est le premier range des claviers QWERTY. Pas les vôtres, pas les français. Mon clavier, par exemple. Hein? QWERTY. QWERTY, bon, la première range. Aucun autre message. C'est Ray Tomlinson aussi qui a choisi la robe, hein? Dont l'origine reste très mystérieuse. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup des articles. J'en ai trouvé plein en disant ça vient de ça, ça vient de là. Mais tout semble que ça vient de ça. Et c'était un peu avec l'idéologie de créateur d'Internet, hein, avec la anarchisme. Bon, je les laisse comme ça. Au début du mail, les mails allaient dans un fichier host de texte, mais après, avec les booms, ça a été impossible de gérer ces fichiers et a évolué au mail que nous connaissons maintenant. Les booms est arrivé quand? Les booms est arrivé avec l'invention de la World Wide Web. Au CERN, Tim Berners-Lee est le Belge que je ne m'en souviens jamais du nom, mais de toute façon, c'est Tim Berners-Lee qui continue maintenant à lutter pour sauver son World Wide Web du contrôle. Alors, je le connais bien, Tim Berners-Lee, il est un peu égolâtre, ça existe en français?
Idolâtre.
Égo. Oui, ça existe, égolâtre. Égocentré. Alors, égocentrique. Bon, c'est la même chose. Mais si les mots se ressemblent trop, et j'ai peur de parler en catalan avec accent français. Alors, lui, il se veut le créateur du monde. Je l'ai écouté, je l'ai entendu plusieurs fois. Et il a proposé comme premier nom, pas World Wide Web, mais moi. Mais moi, ça voulait dire Mine of Information. Et après, quand les gens ont dit oh, moi, c'est pas bien, il a dit bon, alors on l'appelle Tim. C'était son nom. Et Tim voulait dire The Information Mine. Mais là, finalement, ça a été les World Wide Web, comme vous bien connaissez. Après les World Wide Web, c'est la guerre des navigateurs. Les premiers navigateurs ont été Mosaic. Les premiers inventés, ça a été inventé par un étudiant d'Illinois. C'était ouvert. C'était un navigateur complètement ouvert. Et entre 1995 et 2003, et ça a été une vraie guerre de navigateurs. C'était la clé pour naviguer, c'était la clé pour accéder à Internet. Alors, tout le monde s'est mis à construire des navigateurs. Les mêmes étudiants qui avaient créé Mosaic ont créé Netscape. En 1995, Microsoft a lancé son Windows 95 et son Internet Explorer. Vous vous en souvenez d'Internet Explorer. Le 2002, Internet Explorer avait les 90% du marché. Presque tout le monde était utilisé Internet Explorer. Il y a eu des guerres. Finalement, la Mozilla Foundation a créé Firefox. Vous connaissez Firefox, ouverte aussi, construite par milliers de bénévoles. Que c'était un peu ça la philosophie d'Internet. On construit tout à fur et à mesure. Ce n'était qu'en 1998 qu'il est apparu les Garage Google. C'est deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, qui ont commencé à travailler à ça. Il y a eu aussi Yahoo en 1995, qui c'était un web, après a été un navigateur. Vous savez d'où vient le nom de Yahoo, les Yahoos? Vous savez qu'est-ce que sont les Yahoos? Ce sont les humains dans les derniers des voyages de Gulliver. C'était un annuaire, c'était un web, c'était un moteur, c'était un messenger, un magazine. Finalement, il y a eu un accord entre Yahoo et Microsoft pour construire Bing. Apple a réagi et Steve Jobs, ils ont créé Safari. Je l'utilise encore, les navigateurs pour Apple, que Steve Jobs voulait appeler Freedom, liberté, parce qu'il lui permettait de se libérer de l'Internet Explorer de Microsoft. Toute cette guerre de navigateurs, pourquoi la guerre? Pour les contrôles des données, déjà. Parallèlement à cette guerre-là, il y a eu tout l'essor des communautés virtuelles, tous les problèmes des identités numériques. Vous vous en souvenez de ça, ça c'est très connu, vous ne pouvez pas lire, mais il dit « on the Internet, nobody knows you are a dog ». Parce que, mais ça a été, je m'en souviens de cette époque-là, on pouvait changer son identité. On peut changer encore son identité, mais au début, il y a eu beaucoup de littérature sur ça, notamment Tarkel, une chercheuse de l'MIT, a travaillé beaucoup sur l'identité numérique. Les communautés virtuelles, c'était une promesse, promesse de liberté. Je m'en souviens l'année peut-être 98, que j'ai un collègue d'Israël est venu me voir. Et il m'a dit, bien, je viens te voir et je vais t'offrir un appartement. Ah, j'ai dit, ah bon, merci, ça c'est bien. Un appartement où? À Tel Aviv. Il m'a dit non. Il m'a montré, pour moi, Second Life n'était pas encore là. Il m'a montré une ville qu'ils avaient construite en Israël. C'était une ville virtuelle et on pouvait créer son identité, décorer son appartement, interagir avec les gens. J'ai dépensé beaucoup de temps là. Et après, c'est Second Life qui est sorti, toutes ces histoires des communautés virtuelles et des identités numériques. Et finalement, c'est le marché qui est arrivé. Google est apparu et on est arrivé ici. Le marché, la privatisation d'Internet. Manuel Castells a parlé pour la première fois de la restructuration du capitalisme vers un capitalisme informationnel. L'année 96, il a inventé ce concept d'espace de flux dans la société réseau. Tout le monde a lu sa trilogie, mais très peu de monde a assumé qu'est-ce qu'il voulait dire avec tout ça. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes sur ça. Il y a Tony Negri, vous vous en souvenez, l'idéologue de Brigade Rouge, qui parle et a travaillé des choses très intéressantes sur ce qu'il appelle le capitalisme cognitif. On est là. Alors, on peut parler de liberté sous contrôle, limite de l'autorégulation, de l'autorégulation qu'on avait prévu au début, et montée des contrôles étatiques, mais surtout privés, au service de l'État et du marché. J'ai parlé de Google l'autre jour, je ne vais pas vous en reparler, seulement quelques données pour voir l'évolution de tout ça, parce que c'est le plus important pour moi. C'est en ce moment, Google a 90,3% du marché, mais notamment en Europe. Notamment en France. En France, il a les 93,4% du marché. En Russie, par exemple, il n'a que le 22% parce qu'ils ont un navigateur Yandex, qui est un navigateur construit pour eux. En Corée, c'est un 7% seulement parce qu'ils ont aussi un navigateur local. Au Japon, ils ont un 39%, c'est Yahoo encore qui a le pouvoir au Japon. Et aux États-Unis, c'est un 67% seulement. Alors, c'est l'Europe qui donne toutes ces données à Google. C'est majoritairement, c'est l'Europe. En tout cas, Google, n'est-ce pas, comme on a vu l'autre jour, n'est pas un simple moteur de recherche et une gigantesque expérience d'intelligence artificielle est un nombre colossal d'activités agrupées en un holding qui s'appelle Alphabet et que le président et le CEO, le PDG, c'est le président, c'est Brin, c'est Sergey Brin, et le PDG, on dit PDG, non, c'est Larry Page. Les deux créateurs de Google sont dans à la tête de ces grands conglomérats. La NSA, la National Security Agency des États-Unis, dispose d'accès direct à ces infrastructures à travers un programme qui s'appelle PRISM. Page et Brin adhèrent aux thèses de transhumanisme. Ça veut dire améliorer les caractéristiques physiques et mentales de l'être humain, en simplifiant, hein. À travers une convergence des cerveaux individuels avec le cerveau global artificiel destiné à être implanté bientôt aux individus. Hein. Alors, l'année 2000, avec l'éclatement de la bulle Internet qui vit s'effondrer les tableaux idylliques d'une croissance infinie portée par un grand nombre de toutes petites entreprises, les startups, vous vous en souvenez, ça a éclaté. Un pourcentage épouvantable des startups ont disparu et ceux qui sont restés, notamment Google et Amazon, sont les grands mastodontes en ce moment de toute cette histoire-là. Les attentats de l'11 septembre de 2001 aux États-Unis On fait les virages sécuritaires. Je dois vous dire que ce jour-là, en lisant des déclarations de votre Manuel Valls, Valls, je l'ai dit en catalan, excusez-moi, il est catalan, et le président Hollande, quand j'ai lu des choses comme ça, j'ai lu les mêmes choses que j'ai lues l'année 2001, et je me souviens toujours de Big Brother ce jour-là. Alors, les attentats de l'11 septembre aux États-Unis ont déclenché la Patriot Act. Vous vous en souvenez de la Patriot Act qui permettait toutes ces histoires-là, qui permettait de fouiller partout les données. Et après, Wikileaks, l'année 2011, a montré que ça, c'était vrai. Et l'alerte de Snowden 2013 remontrer que ça se passait. Alors, quelques choses sur la NSA. C'est quoi la NSA ? Ça a été, c'est pas une chose nouvelle. Ça a été créé par le président Truman l'année 52 au sein du département de défense américaine. Elle est responsable, je cite, du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information de traitement des données du gouvernement. Alors, elle a 21 650 employés. Elle avait ses employés en 2012. Je n'ai pas trouvé de données récentes. Ils ont arrêté les données après tout Wikileaks et Snowden. Il avait un budget en 2012 de 2,2 milliards dollars. Elle a son siège à Maryland. À Maryland, ils analysent les données, mais les grands serveurs, ils ont à Utah. À Utah, ils ont tous les serveurs là-bas. Si vous prenez l'autoroute qui va de Baltimore à Washington, vous verrez qu'ils ont sa propre sortie là-bas. De l'autoroute qui dit marqué NSA Employees Only. Alors, ils sont là. Ils parlent de Communications Intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire Communications Intelligence? Renseignement venant de l'interception des communications. C'est ça. Contrairement à la CIA, la CIA, fondée de manière très officielle et très transparente, la NSA est restée très secrète au début. Son existence ne fut officiellement reconnue que jusqu'à la fin des années 50. Et c'est pour ça que, quand on a su que depuis 10 années, il y avait cette agence-là, on l'a commencé à nommer Non-Such Agency, NSA. Ça veut dire une telle agence n'existe pas. Ou bien Never Say Anything, NSA. Depuis les débuts, ça c'est l'euro de l'agence. Depuis les débuts, la NSA a obtenu de beaucoup d'entreprises de télécommunications, comme par exemple RCA Global, AT&T World ou de Western Union, l'accès aux messages circulant par câble. Environ 150 000 messages l'année 52 par mois sur un total de 6 millions, ça veut dire 1 sur 40. Ça vient de loin, c'est pas une chose que... L'année 52, ils regardaient déjà 150 000 messages par mois. Comment est-ce qu'elle espionne? Avec des antennes au sol, avec VHF, micro-ondes, à travers d'avions et satellites espions, écoute des câbles sous-marins, accès autorisé par des opérateurs de télécommunications, ça c'est très important, à leur trafic des données et avec des méthodes clandestines qu'elles ne disent pas. Suite au message téléphonique, la NSA a essayé de nouveaux défis. Elle a organisé un sabotage de la compagnie suisse Crypto AG, lui permettant de lire les messages diplomatiques et militaires de plus de 130 pays. Et le plus important, c'est qu'elle a initié l'espionnage industriel, que tout au début a fait échouer deux contrats Airbus, par exemple. Ou en 1994, par exemple, l'Orsdigat du général Agreement on Tariffs and Trade entre les États-Unis et l'Union européenne. Elle a espionné tous les pays concernés de l'Union européenne et la Commission même. Et en 2005, avec Bush, il a intensifié beaucoup son activité. On sait, grâce à Wikileaks, qu'entre 2006 et 2012, il espionnait les conversations des présidents Chirac, Sarkozy et Hollande, et ainsi que certains membres du gouvernement français. Et on appelait ça France Leaks. La NSA a mis la République sur écoute. Elle a espionné aussi Angela Merkel, vous l'avez lu, et Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. À la fin de juillet de 2012, Wikileaks dévoile que la NSA a espionné des hauts responsables du gouvernement japonais, par exemple, des entreprises telles que Mitsubishi, la banque centrale japonaise. Alors, elle espionnait tout, elle espionne tout. En 2013, Snowden nous a raconté toutes les opérations de surveillance menées à grande échelle sur Internet. Et ces déclarations ont été jugées orwelliennes par un juge de Washington, mais légales selon un juge de New York. Récemment, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous l'avez lu, il a pénétré dans les réseaux informatiques gérant un câble sous-marin qui part de Marseille, qui s'appelle le câble Simigui, qui achemine des communications téléphoniques et Internet depuis Marseille vers le nord de l'Afrique, les pays des Golfe et l'Asie. Orange a posé plainte de tout ça. Ils sont en train de discuter encore si c'était légal ou pas. Elle a espionné aussi Belgacom, a été espionnée et piratée. Et elle a aussi réussi à insérer des implants, elle dit, capteurs, dans les services de Cisco, de Dell et de Huawei. Et elle peut récupérer sans effort des informations des iPhones, des Windows. Selon Wikileaks, de toute façon, ça c'est très important, les 90% de cet espionnage, vous direz quoi? Ça sert à quoi? C'est le terrorisme? Non. Les 90% de cet espionnage, c'est économique. Seulement les 10%, c'est sur le terrorisme. Qu'est-ce qu'elle espionne au niveau économique? Énergie nucléaire, renouvelable, infrastructure technologique, transport, infrastructure, services et technologies de santé et de soins, compris les progrès, bien sûr, des biotechnologies. Elle espionne aussi Google et Yahoo, elle espionne tout. La NSA recueillerait chaque jour, en ce moment, 55 000 photos des personnes afin de construire une gigantesque base de données et un logiciel de reconnaissance faciale permettant d'identifier avec beaucoup de précision les visages de n'importe quel individu sur des photos ou des vidéos. Snowden a mis en lumière les rôles joués volontairement ou involontairement, on ne sait pas, par certaines entreprises Internet dans la collecte des données personnelles des utilisateurs de leurs services. Google, Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo, Evernote, LinkedIn, Twitter, tout espionné. En réponse, excusez-moi, mais pour le France Lix, j'avais aussi ça. C'est, je ne sais pas si vous. Dans la chaise, il y a le. C'est Hollande qui entre et dans la chaise, il y a le logo de la agence. Alors, WikiLeaks a créé ça. C'est un navigateur Tor. Je l'ai. C'est pas très commode. Je dois dire que chaque jour, je me dis, je veux naviguer avec Tor, et finalement, j'ai fini avec Google parce que c'est plus commode. C'est quoi l'idée de Tor, de ces nouveaux navigateurs? Résistance, anonymity, c'est quoi anonymat, protection de la vie privée, toute cette histoire-là, surveillance, contre la surveillance, contre le trafic et l'analyse des données, toute cette histoire-là. On ne peut pas vous localiser si vous utilisez ça. Si vous utilisez Google, oui, on peut vous localiser. C'est ouvert et gratuit. Alors, maintenant, la question. Il existe une main invisible de l'architecture numérique constituée d'intérêts économiques et politiques qui a transformé les valeurs de départ d'Internet? Oui. Il existe. On a laissé le cyberespace à lui-même. Les politiciens de l'époque, même quelques politiciens de maintenant, peut-être notre quatrième séance, on aura un politicien qui va nous raconter tout ça, ne comprenaient rien. On comprenait très peu de tout ça, des technologies, ils ont laissé faire. Je ne sais pas, tu as distribué l'article d'Atali sur le septième continent? Atali, l'année 80, moi je n'ai fait pas une pantalle parce que je croyais que tu l'avais distribué. Oui. Ah oui? Oui, oui. C'était les 97 qu'il parlait de nouveaux continents à découvrir. Et il disait, je croyais que vous l'avez lu, mais je vous le lise, il disait, quand l'Europe se révélera-t-elle? Quand comprendra-t-elle qu'Internet est un nouveau continent où il est urgent de débarquer sous peine de laisser les immenses trésors aux autres? Combien faudra-t-il de bulletins de victoire américains pour que l'Europe s'intéresse enfin à cet enjeu? Alors, Internet, au début synonyme de libre expression, de diffusion des connaissances, de création et innovation, d'émancipation individuelle et collective, d'empowerment, de transparence, de subversion de hiérarchie, de valorisation de singularité individuelle. J'ai écrit à tout ça. Hein. Où est-ce qu'elle a abouti? Elle a abouti à la cybercriminalité, la pornographie, vol d'identité, vol des données personnelles et bancaires, propos racistes, antisémites, xénophobes, terrorisme. Mais miroir de la société. Hein? C'est pas Internet, c'est pas ça. C'est la société qui est comme ça. Et Internet, c'est le miroir. Ici, j'ai un graphique. Oui, comme ça, on voit ici. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais c'est pas important. Je vous l'ai dit. Quelles entreprises, j'ai coupé ici, mais il y avait toutes les entreprises d'Internet, ont des best practices, toutes. La première colonne, c'est best practices. C'est impossible de lire. Hein. Quelle entreprise prévient ses utilisateurs sur les demandes des données de gouvernement? Vous voyez, Amazon, non, prévient pas. AT&T ne prévient pas, Google ne prévient pas, Microsoft ne prévient pas, Pinterest ne prévient pas. Qui prévient de la rétention des données? Amazon ne prévient pas, AT&T ne prévient pas, Google ne prévient pas, Microsoft ne prévient pas, Pinterest ne prévient pas. Qui retire... prévient de quand les gouvernements demandent à retirer quelque information. Facebook ne prévient pas. LinkedIn ne prévient pas. Microsoft ne prévient pas. Alors, oui, il faut que j'avance. Hein. Alors, je saute tout ça. En tout cas, Une chose très intéressante que je voulais dire quand j'ai parlé de cybercriminalité, c'est que la France, par exemple, a gagné un procès à Yahoo l'année 2000 parce qu'elle a découvert que Yahoo avait des objets nazis en vente. Elle a gagné, la France. Ce n'est pas impossible de gagner. Il y a une histoire amusante que j'aime bien, c'est que, à un moment donné, la Russie a dénoncé, a demandé à Mastercard, la carte bleue, à PayPal, que les paiements effectués par des citoyens russes sur des territoires russes soient traités en Russie. Ils ont dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un paiement fait par un citoyen russe dans un magasin russe est traité dans des data centers des États-Unis. Ça veut dire que c'est Poutine, je ne crois pas qu'il fasse ça, va s'acheter une coca avec une visa, Washington le sait 30 secondes après. Ça, avec Wikileaks, par exemple, Wikileaks recevait de l'argent des bénévoles qui donnaient Master, Visa, PayPal. On interdit ça. On ne peut pas donner maintenant à Wikileaks. Qu'est-ce qu'il a fait, Visa, la carte bleue? La carte bleue a interdit en entreprise allemande de vendre en ligne des cigares cubains. Elle ne l'a pas interdit, mais ils ne pouvaient pas payer. Alors, je voulais vous raconter ça pour voir les pouvoirs de tout ça. J'avance. Il ne s'agit pas de contrôle, de conquête de nouveaux territoires. Il s'agit d'envahir la vie privée des gens. Plus de communication, plus de surveillance. Cette surveillance est chère? Non, pas du tout. La surveillance, par exemple, en masse à l'Allemagne, ça coûte, surveiller tous les appels téléphoniques allemands échangés pendant un an, ça coûte environ 30 millions d'euros, tout compris. La surveillance seulement stricte des données, c'est 8 millions d'euros. Ou par exemple, je me précipite là parce que cette entreprise-là, c'est une entreprise de l'Afrique du Sud qui vend des systèmes de surveillance des masses pour 2 millions d'euros chaque année. Elle l'a vendu à tous ces pays-là. Ou bien Eagle, qui est une entreprise française qui a vendu un système de surveillance à Gaddafi. Le marketing disait mécanisme d'interception à l'échelon national. Pourtant, malgré cette surveillance des masses, les communications ont permis à des millions d'individus d'arriver à des consensus pour l'action. On a l'exemple, je ne vais pas m'arrêter ici, des printemps arabes que vous connaissez très bien, 2008, les guerres, les gens à travers Facebook arrivent à un consensus pour la révolution. Moubarak se raconte de ça, coupe Internet et les gens sortent dans la rue pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand on est dans la rue, commence la révolution. Alors, c'est cette double phase aussi d'Internet. On peut l'utiliser pour tout ce que je viens de dire, on peut l'utiliser aussi pour faire des révolutions. Et la dernière phase, on y est maintenant. C'est la phase de l'Internet des choses, de l'Internet of Things. Le 5 janvier à Las Vegas, il y a eu le Consumer Electronic Show, 3600 expositeurs, 150 000 visiteurs, chaussures connectées qu'on peut s'attacher au chauffer depuis un app à l'iPhone, boîtier de conduction automatique, on n'a pas besoin de les conduire, Ford, par exemple, Faraday de la Chine, Tesla, on a déjà des boîtiers comme ça, casque avec laser qui active la pousse capillaire, toutes sortes de choses.